Vous écoutez RTL.
Il est 18h20, le premier invité de RTL Soir, Marc-Olivier Fauché.
Le premier invité d'RTL Soir, c'est le porte-parole du gouvernement, peut-être futur maire de Paris. Allez savoir. Bonsoir, Benjamin Griveaux.
Bonsoir, Marc-Olivier Fauché.
L'actualité ce soir, c'est Alexandre Benalla qui refuse donc de se rendre mercredi prochain au Sénat. La commission d'enquête va le convoquer, explique qu'il aura l'obligation de s'y rendre. Après avoir gâché l'été, il vous gâche la rentrée.
Écoutez, moi, je me range derrière l'ordonnance de 1958 qui stipule très précisément qu'une personne mise en examen dans une procédure judiciaire, ce qui est le cas de M. Benalla, peut refuser d'être auditionné par une commission d'enquête parlementaire.
C'est Vous avez entendu les sénateurs expliquer que ça dépend comment elle est rédigée, cette commission parlementaire, et qu'on parle pas, comme ça ne vient pas empiéter sur l'enquête, ils ont la possibilité de la faire, cette commission parlementaire.
C'est le béaba de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire. Et donc moi j'invite les sénateurs, M. Bas qui fait un communiqué de presse avant même d'avoir convoqué M. Benalla pour savoir si M. Benalla viendra, une convocation qu'il n'a pas encore lui-même envoyée. Enfin, on est dans une opération pure de communication politique. M. Bas fait sa campagne politique personnelle depuis des semaines sur le sujet. Je vais citer M. Guillaume Larrivé. Guillaume Larrivé, c'était le député Les Républicains qui co-présidait la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Il a dit sur cette affaire, on ne va quand même pas y passer le réveillon. J'invite le Sénat à écouter la sagesse de Guillaume Larrivé.
Excusez-moi, mais simplement une question, j'allais dire, d'auditeur. Alexandre Benalla, on l'a vu sur TF1, on l'a vu dans Le Monde, on l'a entendu dans le JDD. On se demande simplement, qu'est-ce qu'il a à se reprocher pour ne pas aller parler, alors qu'il y a plein de gens de l'Élysée qui sont allés. Pourquoi il ne va pas s'expliquer?
Il est mis en examen à la différence de toutes les autres personnes qui ont été entendues, et c'est donc son droit le plus strict, c'est le droit à un procès équitable, le droit de se taire à un moment où on le souhaite. C'est les droits de la défense. Alors je veux bien qu'on mette en cause les droits de la défense pour faire plaisir à M. Philippe Bas, dont je rappelle qu'il était secrétaire général de l'Élysée lui-même, donc il connaît le droit à M. Bas, c'est un énarque très éminent. Et donc, soit il nous explique aujourd'hui que la séparation des pouvoirs vole en éclats, que les droits de la défense...
Il vous explique que la commission parlementaire n'empiète pas sur l'enquête judiciaire puisqu'elle est rédigée autrement et que donc, il a dans l'obligation,
Alexandre Benalla, de venir... C'est un principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Il peut nous raconter la messe, M. Bas, sur la rédaction d'un communiqué de presse. Il est en train de faire une campagne politique personnelle. Chacun l'a bien compris, y compris ses propres amis à l'Assemblée nationale qui expliquent qu'on ne va pas le réveillon.
Cas, Benjamin,
Je suis porte-parole du gouvernement. Je n'ai rien à conseiller à M. Benalla. C'est l'affaire de M. Benalla et de son avocat. Mais je vais vous dire une chose. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de M. Benalla depuis des mois et que les Français, ils ont envie de parler de la rentrée, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va préparer sur le plan pauvreté et de ce qu'on fait pour eux. M. Bas serait bien avisé de s'occuper un peu plus des Français et un peu moins de sa carrière politique.
En tout cas, les Français doivent être choqués par le salaire découvert d'Alexandre Benalla. 7 113 euros, c'est très bien payé pour être garde du corps, non?
C'était déjà le cas et ça avait déjà été dévoilé à maintes reprises. Donc, c'est du faux suspense en permanence. Très bien, si on passait à autre chose, je crois que les Français attendent vraiment autre chose de leur classe politique et de leur opposition.
Donc, vous dites quand même que ça brouille la communication du président qui va parler du plan pauvreté. Un Français sur cinq ne mange pas à sa faim. C'est un chiffre terrible que publie aujourd'hui le Front
Populaire. 3 millions d'enfants sont sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, nous avons près de 9 millions de personnes pauvres. Et surtout, un chiffre terrible, c'est que lorsqu'on rentre dans les mécanismes de minima sociaux, et par exemple au RSA, on a beaucoup de mal à en sortir. Tout l'objectif de ce plan, c'est de faire en sorte que ceux qui sont tombés dans la précarité en sortent, et que ceux qui pourraient y tomber n'y tombent jamais.
Donc ça coûte peut-être un pognon dingue.
C'est un bel enjeu de mobilisation. Je ne commenterai pas les petites phrases, etc. Ça ne m'intéresse pas.
C'est l'écume. C'est une phrase du président de la République.
C'est l'écume.
C'est une phrase du président de la République.
Mais c'est l'écume. Ce qui m'intéresse, c'est les politiques qu'on met en place pour aider les gens.
Justement,
qui
la fusion des minima.
Si je peux terminer une seule de mes phrases, j'en serais très heureux. Mais j'entends les questions que vous me posez, Marc-Olivier Fauchel, mais si je ne peux pas y apporter une réponse de plus d'une phrase, vous comprendrez que moi, je ne suis pas dans la politique du tweet. Vous ne transformez pas le pays en 140 signes, et donc il faudra prendre
que je vous demande
le temps de
la fusion des minima sociaux. C'est très concret pour les gens qui nous écoutent. Ils se demandent si ils seront fusionnés ou pas.
Ça, ce sera annoncé par le président de la République jeudi, donc je ne vais pas griller la politesse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en revanche, nous allons mettre le paquet sur un sujet fondamental qui est la question de l'accompagnement, sur la question de la sortie au moment de l'aide sociale à l'enfance. On sait que quand les gamins sortent de l'aide sociale à l'enfance, eh bien, un quart d'entre eux deviennent malheureusement tombent dans une immense précarité et en gros vivent dans la rue. Eh bien, c'est cela qu'on veut aider et on va changer profondément la philosophie qui est celle du modèle social français depuis des générations. Je crois que c'est cela que les Français attendent aussi.
Ça, c'est l'annonce de jeudi, donc, avec le président qui présentera son plan pauvreté. Vous, en attendant, aujourd'hui, vous donnez une grande interview aux Parisiens, en ligne de mire, les municipales de 2020. On comprend bien que vous vous mettez en ordre de bataille pour pouvoir être une opposition à Anne Hidalgo. Simplement, aujourd'hui...
Non, pas pour être en opposition à quelqu'un, avec, c'est pour proposer un projet aux Parisiens. Ceux qui pensent sur les mots, mais on ne joue pas sur les mots. Moi, je ne suis pas candidat contre quelque chose. La République en marche, c'est pas candidat contre quelque chose.
En tout cas, contre sa façon de gérer la municipalité aujourd'hui.
Différent aux Parisiens. Alors,
justement, quelle est votre ambition pour la capitale? Puisque si vous proposez ce projet, c'est que vous estimez donc qu'Anne Hidalgo, le sien en tout cas, ne vous satisfait pas.
Il y a des choses qui ont bien fonctionné. Moi, vous savez, je ne ferai pas partie de ceux qui considèrent que tout va mal. Mais ce que je considère aussi, c'est que, sans doute, on s'est un peu éloigné, au fond, des préoccupations du quotidien des Parisiens. Les questions de propreté, de sécurité, de transport, d'entretien de l'espace public, de logement, ce sont des sujets sur lesquels on peut faire mieux, on peut faire différemment, on peut faire en écoutant les Parisiens, en arrêtant d'organiser au fond à Paris l'Est contre l'Ouest, la gauche contre la droite, ce qui a été fait pendant de nombreuses années. Moi je veux qu'on réconcilie les Parisiens, je veux que quand on est maire de Paris, on puisse travailler avec des maires d'arrondissement qui ne sont pas de la même couleur politique, parce que ces maires d'arrondissement, ils ont été élus par tous les Parisiens. Bref, remettre au fond la compétence au cœur du projet politique plutôt que les partis politiques au cœur du projet parisien.
Et donc vous vous sentez de porter cette candidature, manifestement?
On va le faire de manière collective, et on a, moi vous savez, j'ai dit qu'il fallait procéder par étapes. D'abord on va aller écouter les Parisiens, ça va être pendant 5 à 6 semaines, on commence début octobre, écouter ce qu'ils ont à nous dire, ensuite on va travailler à partir de ce qu'ils nous auront dit, et puis on choisira. Alors, il y a un collectif, parce que c'est 17 élections Paris.
J'sais bien,
il y aura 17 circonscriptions électorales, 17 mairies, donc 17 listes, plus de 500 candidats, donc c'est un immense travail collectif, et moi je veux qu'on trouve des gens les plus compétents dans les secteurs dans lesquels ils opèrent, pour que demain, eh bien, on ait de la compétence à la tête de la mairie de Paris.
Merci Benjamin Griveaux d'être venu ce soir sur
Merci
RTL répondre aux questions.
De manière longue.
De manière... des questions, des réponses. Certaines Exactement. Questions étaient rapides, des réponses certaines étaient longues. Merci Benjamin Griveaux.
Merci à vous.